Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours MVA au sujet des fondamentaux C#. Aujourd'hui, nous allons voir un module consacré aux exceptions. Alors, les exceptions, c'est un vaste sujet en .NET. C'est quelque chose qu'il faut absolument bien comprendre parce que c'est un petit peu ce qui va sauver les meubles quand on va affronter une situation que l'on ne peut pas gérer par code et qui est souvent dû à une manipulation utilisateur ou peut-être à des contraintes réseau ou à une connexion Internet qui ne fonctionne pas bien, etc. Donc, les exceptions, je vais reprendre encore mon petit bloc-notes, comme d'habitude, qui est ici. Donc, voilà ici. Donc, nous en sommes au chapitre 15. Nous allons donc gérer les exceptions. Et gérer les exceptions, eh bien, ça se traduit par utiliser un bloc que l'on va appeler le bloc try-catch et optionnellement le bloc finally. Bien. Alors pour ça, je vais repasser sur Visual Studio et nous allons reprendre un morceau de code que nous avions déjà écrit dans un précédent chapitre qui permettait de lire le contenu d'un fichier. Rappelez-vous, nous avions écrit une méthode qui va lire un fichier avec le nom du fichier en paramètre. Il va lire l'ensemble des lignes et en plus va compter le nombre de caractères. J'ai un petit peu changé le code pour éviter d'avoir à écrire en dur le chemin du fichier, mais pour plutôt demander à l'utilisateur le chemin qu'il souhaite utiliser. Donc à l'exécution, sans rien changer pour l'instant, voilà comment est-ce que ça fonctionne. Donc je lance mon exécutable, mon fichier se trouve dans ctemp, il s'appelle summary.txt. Donc ici je mets c, /, temp, /, summary. .txt et pour l'instant ça fonctionne, il lit bien l'ensemble de mon fichier et il me dit globalement qu'il y a 1460 caractères dans ce fichier. Bien, jusque là tout va bien. Maintenant que se passe-t-il? Que se passe-t-il si... Alors les exceptions on peut les avoir dans deux cas. D'abord la première exception qu'on peut avoir c'est lorsque moi je me trompe dans l'écriture de mon code, mais là il y a un truc qui est très bien, voyez-vous ici j'ai mis ulpass au lieu de fullpass. Lorsque j'essaye de compiler mon code, lorsque j'essaye de faire un run dessus, il me dit qu'il y a une erreur dans mon code, il y a une exception qui est levée sur le nom du fichier, donc ça c'est très bien. Ça me permet de vérifier qu'il y a un souci, donc là pas de problème. Des fois on peut avoir des soucis mais qui viennent non pas d'un code qui est écrit mais plutôt une exception qui va se lever pendant l'exécution du code, et dans notre cas à nous ça sera si par exemple j'écris ici non pas c:// temp /, je n'écris pas summary avec deux m avec un seul m, summary.txt. Vous voyez qu'il va se passer quelque chose d'inhabituel. Je vais avoir une erreur qui est levée. Il me dit attention, lorsque j'ouvre un stream reader, j'ai une exception qui est levée, qui est une system.io.findNotFoundException. D'accord? Donc globalement, c'est une exception qui me dit qu'il n'a pas réussi à trouver le fichier qui s'appelle summary.txt dans le répertoire ctemp. Alors là, bon, quand on est dans Visual Studio, on a un point jaune qui apparaît, etc., et on peut arrêter l'exécution. Mais qu'est-ce qui se passe si on va directement cliquer sur l'exécutable qui est ici. Donc je vais aller ouvrir le projet. Bon, rappelez-vous, tout ceci se trouve dans le fichier bin debug. Ici je lance file.exe. Donc, je vais faire un c:// temp /, summary avec un seul m. .txt. Et vous voyez ici, j'ai quelque chose, ça plante, j'ai un ensemble une phrase un peu illisible qui remontait et l'application s'arrête. Donc ce n'est pas acceptable pour un utilisateur d'avoir ce genre de remontée. Donc on va essayer de voir comment est-ce que l'on peut faire pour gérer ce cas-là. Donc d'abord, vous avez vu que nous avions une exception un petit peu particulière qui remonte, qui est une exception nommée, qui s'appelle la find not found exception. En fait, toutes les exceptions qui remontent du .NET sont typées. La plupart du temps, sauf quand on ne sait pas ce que c'est qu'une exception, parce qu'en quel cas, une exception de base est remontée. Si je prends ici, par exemple, si je relance mon exécutable et que cette fois-ci je ne me trompe pas sur le semaine du fichier, mais plutôt sur le nom du répertoire, je mets temp avec un E, par exemple, summary.txt, vous allez voir que ce n'est pas une find not found exception qui est relevée, mais c'est une directory not found exception qui est levée, une system.io.directory not found exception qui est levée, avec des informations additionnelles qui est qu'il n'arrive pas à trouver le chemin ctemp. Alors, si vous regardez un petit peu sur la documentation MSDN, ici, eh bien, vous allez voir que Directory Not Found Exception, c'est quelque chose que vous trouvez facilement sur la documentation MSDN. Eh bien, c'est une erreur qui hérite de IO Exception, qui elle-même hérite de System Exception, qui elle-même hérite de System.Exception, qui elle-même hérite de System.Object, parce que tout hérite d'objets en .NET. Donc, Directory Not Found Exception, c'est une exception particulière qui hérite de System Exception. Il faut savoir que toutes les exceptions qui existent en .NET héritent forcément de System.Exception. Ça, c'est important de bien le comprendre pour pouvoir continuer à travailler. Bien. Alors, comment est-ce que ça se passe maintenant si je veux mettre en œuvre, eh bien, un système de prévention lorsqu'il y a des erreurs qui peuvent survenir? Eh bien, ce que je vais faire, je vais utiliser un bloc qu'on appelle le bloc try-catch. Donc, try. Alors, ce que vous allez voir, ce qui est assez sympa, c'est que le try-catch, vous pouvez encore une fois, c'est comme une sorte de snippet, vous pouvez faire double table, une fois, deux fois, et automatiquement, il vous écrit le try, le catch qui va bien. Donc, je vais mettre dans mon try ici. Alors, donc, le try, c'est le code qu'il va essayer d'exécuter. Je vais faire CTRL-X, CTRL-V. Et donc, il va essayer d'exécuter ce code-là, et si jamais il y a une erreur, il va arriver dans ce code-là. Et dans ce code-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un console.WriteLine. Attention, une erreur est survenue. Voilà. Ici, je vais enlever le throw. Le throw, en fait, permet de remonter l'exception en l'appelant. Donc ici, je vais dire que j'ai réussi à gérer ce cas-là. Et vous voyez qu'ici, ce que me dit Refine, il me dit attention, tous les codes ne renvoient pas forcément la valeur. Parce qu'en fait, ici, j'ai deux blocs de code, ce bloc-là. Et si jamais j'arrive à la fin. Donc, supposons qu'ici il n'y a pas d'erreur, eh bien je vais renvoyer le nombre de caractères. Mais si jamais ici, attends, j'ai oublié la première ici. Si jamais ici je plante à partir d'ici, ce code-là ne sera pas exécuté et automatiquement il va rentrer ici à m'écrire dans la console pour me rétablir ce qui s'est passé et je ne vais rien renvoyer. Et pourtant il faut bien que je renvoie un entier. Donc ici ce que je vais faire un return de 0. Bien. À ce moment-là, je suppose que voilà, j'ai plus de soucis là-dessus. Donc je vais réexécuter mon code. Vous allez voir qu'on va y aller pas à pas. F5, donc F10, je lis ma console, donc c deux points anti slash bleu bleu bleu, anti slash blablabla point txt. Alors, donc je suppose que ça va pas fonctionner. Donc F11, hop, F10, bam, je passe dans le stream reader qui me lève une exception et il me dit attention, une exception est arrivée, je renvoie 0 et j'avais déjà prévu le cas si il n'y a pas de caractères qui sont renvoyés, je n'affiche pas la console le nombre de caractères. Donc déjà ici, j'ai attention, j'ai bien une erreur qui est survenue et je l'ai bien catchée et j'ai bien fait attention de prévenir mon utilisateur. Je vais juste corriger la faute d'orthographe à survenue. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Vous avez vu que tout hérite d'exception et que l'on a vu que nous avions des exceptions de type Directory Not Found Exception ou File Not Found Exception. Et ce que l'on peut faire, on peut faire des catches personnalisés en cascade. Donc je peux faire un autre catch ici, catch en disant si c'est une exception de type Directory not found exception, je peux la nommer comme une variable, j'appelle string, j'appelle Toto, là je pourrais l'appeler EX par exemple, EXD, et bien je pourrais dire, etc. La même chose, je peux faire une console. Donc pouvoir un peu spécialiser mon code, WriteLine, attention, ce répertoire n'existe pas, et je peux aussi en plus rajouter l'erreur remontée par le framework et deux points. Et là, je peux lui dire de me renvoyer la description, le message de l'erreur qui est remontée par le framework.net. Et ici, je refais un return de 0. Et vous avez vu que nous avions aussi l'erreur file not found exception. Donc, ce que je vais faire aussi un catch, hop là, pardon, un catch d'un file Not found exception, donc EXF, et à ce moment je vais dire console.WriteLine, attention, ce fichier n'existe pas. L'erreur remontée par le framework est de point, et je vais mettre ici EXF.message. Je vois qu'au-dessus j'ai une erreur si j'ai oublié de mettre le plus. Qui est ici. Enfin. Plus, alors je vais fermer mon Outlook, ça sera mieux. Voilà qui est bon. Et si jamais ce n'est ni une directory not found exception, ni une file not found exception qui est levée, eh bien j'arrive toujours ici, dans une exception qui est l'exception la plus bas niveau. Donc ici, je vais lui mettre par exemple EX, et je lui dis attention, une erreur est survenue. Une erreur, on va dire, inconnue est survenue. Hop, l'erreur est de point, et ici je vais mettre plus EX.message. Voilà. Donc ici, et chaque fois, je vais faire un return de 0. Parce que chaque fois, il faut que je renvoie quelque chose. Voilà, donc du coup, ici, lorsque je vais exécuter mon code, et bien que si je mets par exemple, donc on va faire F10, donc je vais mettre ici C deux points anti-slash toto, anti-slash D.txt, et bien ici, la première erreur qui est levée, ça va être une directory not found exception. À ce moment-là, le message d'erreur est beaucoup plus précis que si c'était une exception classique. Et il me dit attention, ce répertoire n'existe pas. L'erreur pas remontée par le framework est could not find the part of the path c toto.d.dtt. Super. Et si maintenant je change et que je mets, eh bien on va dire c deux points anti slash temp anti slash ttt.txt qui est un fichier qui n'existe pas, mais cette fois-ci c'est bien l'erreur du fichier qui est remontée et non pas l'erreur du directory. Voilà. Enfin, lorsque vous faites un bloc try-catch, vous pouvez aussi accessoirement rajouter ici une clause qui s'appelle finally, qui est finalement un bloc de code qui s'exécutera tout le temps que vous soyez passé dans un bloc try-catch, dans un bloc catch ou pas. D'accord? Ce que je vous propose de faire dans le bloc finally, c'est fermer mon reader si jamais celui-ci est ouvert. Parce que si jamais j'ai une erreur qui finalement arrive pendant que je lis mon reader, eh bien potentiellement je peux passer dans un catch sans avoir forcément fermé mon reader. Donc ce que je vais faire, eh bien ici dans mon bloc finally, je vais d'abord déclarer mon reader à l'extérieur du bloc try-catch, parce que vous savez que sinon il n'a d'existence que dans le try. Donc je vais faire un CTRL-X, je vais le déclarer ici. Je vais l'initialiser à nul, pour qu'il ait un pointeur qui pointe sur rien. Et le reader, après ici, je vais faire un new ici. Voilà. Donc ça, c'est super important pour pouvoir y avoir accès à l'extérieur du bloc try. Et après ici, ce reader.close, je vais le récupérer et je vais le mettre ici dans le finally. Mais ce que je vais faire, je vais dire if reader différent de nul, alors reader.close, c'est-à-dire que j'aurais bien réussi à l'ouvrir. J'aurais bien réussi à l'ouvrir. Et après, après le finally, tout le code qui est entre ici et ici, évidemment, c'est le code qui va s'exécuter parce que je suis sorti de mon finally. Et bien, ce que je vais faire ici, ce que je peux faire, c'est renvoyer le number of characters, ici, que je peux déplacer ici. Mais encore une fois, il faut que je le déclare à l'extérieur. Donc, je vais le déclarer ici, number of characters. Et du coup, j'ai plus besoin de le déclarer ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà un bloc qui me paraît beaucoup plus cohérent avec ma stratégie de gestion d'erreur. Donc je vais lancer l'exécution et nous allons voir si ça fonctionne. Exécution. Donc ici, je lis bien. Je vais mettre quand même un point d'arrêt ici. Ici, je lis bien mon répertoire. Donc c'est deux points anti-slash toto, anti-slash summary.txt. Donc évidemment, on se doute qu'il va se passer un souci. Donc directory not found exception, j'écris l'erreur, je passe dans mon reader, je vérifie qu'il est différent de nul, non. Et après, je renvoie dans mon nombre de caractères qui est égal à 0. Et ici, évidemment, j'avais déjà géré le cas si le nombre de caractères était différent de 0. Je n'écris rien. Voilà, donc je n'ai pas réussi. Attention, ce répertoire n'existe pas. L'erreur remontée est bien la bonne. J'ai bien réussi à gérer l'ensemble de mon exception en gérant le fait que ce soit un directory not found exception et le fait de pouvoir potentiellement dans un finally eh bien fermer on va dire les ressources associées. Vous avez d'autres types d'exceptions qui sont levées. Le framework le fait déjà très bien pour vous. Alors, je vais vous en montrer une qui me paraît intéressante. Ici, supposons que j'ai, alors ça je vais mettre en commentaire pour l'instant. Contrôle cassé. Supposons que j'ai ce genre de choses-là. Int, on va dire i. D'accord? Et après, je vais dire string istr est égal à 12. D'accord? Jusqu'à vous me suivez. Ce que je vais faire ici, c'est faire un i prend convert.to int 32 de istr. Et après, je vais lui faire une console.writeline. D'accord? De i.toString. C'est juste pour être sûr que dans i, alors si je l'initialise à 0, hein, pour vous montrer que je suis capable de convertir un string, un entier, nous l'avons déjà fait, et je suppose que ça fonctionne. Très bien. Maintenant, supposons qu'ici, je mette non pas un 12, mais que je mette un e au milieu. Donc évidemment, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir une exception qui est levée, qui me dit qu'il a une format exception qui est levée. Très bien. Donc ça, c'est le framework qui me le renvoie et qui me dit j'ai un souci. Donc là, ce que je peux faire, c'est un try catch et dire si jamais j'ai un problème. Je reprends exactement le même système que tout à l'heure. Si jamais j'ai un problème, eh bien je dis console.writeline, eh bien erreur lors de la conversion. Et à ce moment-là, je n'écris pas le console.writeline de i.toString que je mets ici. Voilà. Ça, c'est une première méthode. Ça marche plutôt bien. Il n'y a pas de souci particulier. C'est ce que nous venons de faire ensemble. Eh bien, sachez que sur ce genre de choses-là, eh bien, il y a déjà des méthodes qui existent dans le framework pour éviter d'avoir à écrire un bloc comme ça, notamment sur le convert. Vous avez une méthode qui s'appelle convert.try. Alors, c'est pas convert.try, ça va être plutôt sur int32.tryParse. Le tryParse va prendre un string en paramètre et va vous renvoyer vrai ou faux en vous notifiant s'il a réussi à parser ou pas votre chaîne de caractères. Donc si je fais un tryParse, donc globalement ici je vais reprendre mon système, je vais dire boolean. Alors boolean c'est un boolean qui prend vrai ou faux, hein. Boolean is OK. Prends int32.tryParse de quoi? De istr. Et si jamais tu as réussi à le convertir, vous voyez qu'est-ce qu'il fait ici? Il me demande de passer un paramètre avec un mot-clé qui s'appelle out. Le mot-clé qui s'appelle out, ça permet de passer la valeur par référence. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Disons que je lui passe i ici et il va essayer de le convertir. Et je dis if is OK. Alors à ce moment-là, je peux faire une console.writeline de i.toString. Alors du coup j'ai fait une erreur, il faut que je le passe ici en précisant. Sinon, else console.writeline de impossible de convertir la chaîne istr. Voilà. Donc le intryParse finalement fait en interne ce que nous avons ici et va vous renvoyer un entier ou non, en vous renvoyant un booléen qui vous dit si ça s'est bien passé ou pas. Donc ici, si je teste, eh bien vous voyez que j'ai impossible de convertir la chaîne istr. Et si jamais je passe une bonne chaîne de caractères, le 12, à ce moment-là, il a bien réussi à m'écrire 12. Vous voyez, le try parse ici est finalement eh bien, un parse classique dans lequel il a réussi à catcher l'erreur et à me renvoyer eh bien, une bonne valeur. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à utiliser lorsqu'on fait du parsing de chaînes de caractères en entier. Donc voilà un sujet important qui est la gestion d'erreurs. Le try catch, c'est quelque chose que vous devez utiliser, qui est quelque chose qui est extrêmement important, qui soulève par contre pas mal de problématiques de performance. On utilise vraiment un try catch quand on sait qu'on peut potentiellement avoir des erreurs. Si on peut éviter d'avoir des erreurs en améliorant l'algorithmie de notre programme, c'est toujours intéressant de le faire. Il ne faut jamais utiliser une exception comme étant une règle métier parce que les exceptions, ça, eh bien, ça peut potentiellement être source de problématiques de performance. Par exemple, dans mon exemple, ici, on a vu qu'on levait une directory not found exception. Ce qui aurait été intéressant de faire dans mon programme, c'est avant d'aller essayer d'ouvrir avec le stream reader mon fichier, c'est d'aller vérifier que mon fichier existe bien ou que mon répertoire existe bien. Ça aurait été plus intéressant et ça m'aurait évité potentiellement de lever une exception qui peut être assez gourmande en ressources. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours MVA et je vous retrouve bientôt pour un nouveau module. À bientôt.